Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, c'est l'émission rituelle à la fin d'année. Je ne sais pas pourquoi, cette année, ça me fait peut-être plus plaisir que les années précédentes. Peut-être qu'il y a d'évidence, une sorte d'envie à vouloir faire un bilan de cette année 2017 qui avait peut-être moins les années précédentes. Voilà, cette année, je suis très content d'avoir trois de mes chroniqueurs favoris pour aborder tout ça avec moi. Olivier Bénis de France Inter, c'est la deuxième fois que tu viens.
C'est la deuxième, mais je suis déjà ton chroniqueur favori.
Mais oui,
je suis ravi.
Oui. On en a parlé, il y en a qui n'aiment pas.
C'est à partir de la deuxième.
Voilà.
C'est un titre honorifique à partir de la deuxième.
Est-ce que j'ai une médaille, un truc, à la sortie peut-être.
Un achievement.
Un autre truc.
Corentin Benoît Benin de Décroissant.
Eh oui, Décroissant. Oui. Salut Erwan.
Ah, mais on a tendance à penser en un mot, tu sais. Oui, tu es Décroissant.
Voilà, on va même dire que je suis Décroissant peut-être, voilà. je ne sais pas.
Du podcast, enfin de la radio matinale en podcast Les Croissants, voilà. qui vient de se lancer, il y a un Kickstarter ou un...
Allez,
non, pas un Kickstarter, un financement participatif.
Ouais, en pré-vente.
En pré-vente, voilà, c'est ça, en cours, vous pouvez aller voir. Et Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Le programme. Hein, le programme, c'est on va faire de cette année 2017. Hein, voilà, c'est
bon un cru.
Oui, très bon cru. Mais tu spoil.
Ah,
voilà.
C'est vrai, je spoil.
On peut pas. On va la refaire. Non, on la refait pas. Commencer, tu voulais nous parler de Crytek.
Ouais, donc Crytek qui est ce studio qui fait le moteur CryEngine. Et il est pas content Crytek. Alors déjà parce qu'il a de gros problèmes financiers, il ferme les studios à tour de bras. Il paye plus vraiment ses salariés à l'heure, mais du coup, il attaque Cloud Imperium Games que vous connaissez puisque ce sont les gens qui font Star Citizen. Vous savez, cet énorme projet pharaonique de jeu spatial qui a récolté auprès de 2 millions de personnes qui ont donné de l'argent, 174 millions de dollars, et qu'on attend, et que, à mon avis, mais on verra, on risque d'attendre encore un petit moment tellement le projet est immense et ambitieux. Mais Crytek, pas content car Crytek se rend compte que, oulala, vous n'utilisez pas très bien notre moteur, messieurs de Cloud Imperium Games. Vous allez faire, Squadron 42, donc vous savez, ce jeu en standalone de Star Citizen, et qui est le mode FPS en fait, qui est le mode où on fait pam pam boum boum sur les gens dans l'espace. Et ce jeu étant standalone, ce n'est pas dans l'accord d'utilisation du moteur. Deuxième point d'accroche, et ça c'est terrible, c'est que Cloud Imperium Games a arrêté de mettre le splash screen de CryEngine au début du jeu, tout simplement parce que les mecs sont passés sur Lumberyard, qui est un autre moteur qui est géré par Amazon. Et pas content parce que vous aviez promis tout ça. Donc, on va devant les tribunaux. Et tout ça, en fait, rajoute encore une polémique de plus sur Star Citizen qui accumule un petit peu les petites histoires, alors justifiées ou non, avec des articles assassins, des gens qui le défendent, une communauté absolument au taquet pour justifier le fait qu'ils aient acheté pour 300 euros une parcelle de terre dans un univers qui n'est pas encore sorti. Ça, c'est une autre histoire. Mais quoi qu'il en soit, encore une petite histoire qui, malheureusement, entache un petit peu plus ce projet qui a le mérite de tenter quelque chose et d'exister. J'espère et je pense pas que ça empêchera la sortie, je crois, d'une prochaine version bientôt qui devra en montrer beaucoup plus. Des streams sont prévus et on devrait commencer à s'approcher de ce qui est censé ressembler à une alpha. Donc à la bonne heure, on a hâte en tout cas et on espère que ça donnera quelque chose et pas quelque chose d'évanescent.
Ça me fait penser, juste, tu as dit en intro, Crytek qui ferme les studios et tout ça, ça me fait penser, ça vaut peut-être le coup de le signaler rapidement, que commence cette semaine un partenariat entre Canard PC et Mediapart
sur les
conditions de travail dans les studios de jeux vidéo, avec deux articles dans le Canard PC de cette semaine, et que les abonnés peuvent retrouver déjà en ligne, et qui va courir sur toute l'année 2018, un partenariat avec deux journalistes de Canard PC, deux journalistes de Mediapart, qui enquête sur les conditions de travail dans les studios de jeux vidéo, et je trouve que c'est assez excitant. C'est, bien, enfin, c'est le type de projet qui est...
C'est une première en France, en tout cas, ce genre de collaboration, donc c'est super.
Il y a beaucoup, beaucoup à dire sur le sujet, parce qu'en fait, c'est un des domaines du monde du travail actuel qui est le plus obscur aujourd'hui, qui a le moins de syndicats. Je crois qu'il doit y avoir un seul syndicat qui gère, qui a une partie professionnelle jeux vidéo.
Qui vient de se créer.
Et avant, le seul syndicat, c'était le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, qui est le syndicat patronal, même si sympathique soit-il, mais c'est quand même l'équivalent du MEDEF dans les jeux vidéo. Donc il y a beaucoup de choses à faire, surtout que c'est un milieu qui s'est développé tellement vite qu'il y a des conditions de travail qui se sont faites un petit peu à l'arrache, un petit peu en marge de la loi et des choses comme ça. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses intéressantes à creuser, journalistiquement en tout cas, et peut-être d'amélioration.
Ça commence vraiment avec deux très bons papiers dans Canard PC. J'ai hâte de voir la suite, et c'est vrai que ce genre de partenariat fait vraiment plaisir à voir. Et avec, il y avait eu déjà des enquêtes, un début d'enquête sur Gamekult, notamment sur Gamekult Premium de Nicolas Turquet. Voilà, donc c'était juste pour signaler ça. Ça m'a fait penser. Patrick, de ton côté, c'est les jeux d'aventure.
Évidemment, de l'actu, jeux d'aventure, quand on en a, on en parle, évidemment. Une annonce qu'on a vue passer cette semaine de la part de Focus, l'éditeur Focus, qui vient d'annoncer The Council. Alors, c'est un nouveau jeu d'aventure français qui est en développement dans le studio bordelais de Big Bad Wolf. Alors, c'est prévu pour février 2018. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va être un jeu épisodique. Il y a 5 épisodes prévus. Donc, le premier sort en février 2018, PC, console. Pour l'instant, moi, je n'ai vu qu'une bande-annonce. On a eu un communiqué de presse et une bande-annonce. Moi, qui m'a plutôt fait envie en termes de design, de look. Je trouve qu'il y a vraiment un cachet visuel qui fait envie. En termes de pitch, a priori, ça se passe au XVIIIe siècle, sur une île isolée. Il y a une histoire de meurtre et de société secrète avec des personnages emblématiques comme Napoléon, George Washington. Donc voilà, il y a quelque chose qui fait envie. En tout cas, il y a un côté un peu mystérieux. Et puis surtout, il y a... D'après ce que j'ai lu dans le principe du jeu, il y a des inspirations. Donc on est à la fois sur du jeu d'aventure graphique classique par épisode, mais il y a une volonté visiblement d'apporter des composantes de RPG avec des particularités du personnage qui pourraient évoluer en termes de capacités, des compétences, des talents qui pourront être choisis par le joueur en termes de diplomatie, d'influence par rapport aux autres personnages, etc. Donc ça peut être un angle intéressant pour faire évoluer ce genre qui est toujours en pleine progression, qui se questionne toujours. Donc ça peut être intéressant de l'aborder avec par ce biais-là. Et en tout cas, visuellement, moi, ça me fait vraiment envie. Donc, on en saura plus en février. Donc, on en reparlera évidemment dès qu'on aura pu le tester. Donc une bande-annonce à voir. On attend ça pour début 2018. Et puis, un titre qu'on n'espérait plus voir arriver sur Steam. Ça y est, Maniac Mansion vient d'arriver sur Steam. Je pense que ça fait partie des miracles du rachat Lucasfilm par Disney. Je pense que on savait qu'ils allaient faciliter aussi.
On pouvait y jouer dans Day of the Tentacle, la nouvelle version.
Il était intégré, évidemment, on pouvait y jouer. Mais là, c'est on peut acheter. Là, je crois qu'il y a une promo. Il est à 4€ pour jusque Noël. Donc il faut le faire.
En fait, c'est juste pour avoir ton icône Maniac Mansion sur ton bureau d'ordinateur.
On clique, on lance. C'est un jeu. Donc il faut absolument l'avoir fait. On en parle tout le temps de Maniac Mansion, mais c'est vraiment un titre emblématique du point and click des années 80. C'est vraiment le jeu qui a lancé. La grande carrière de LucasArts, Lucasfilm Games dans le genre. C'est vraiment un grand jeu pour moi. Enfin, c'est un des piliers du genre. Donc c'est une occasion de plus de...
C'est noté. Alors, pas de comme des coms cette semaine, c'est juste, je m'excuse, j'ai mis en ligne l'épisode précédent un petit peu tard, ce qui fait qu'il n'y a pas encore eu vraiment de réaction sur cet épisode magistral que j'ai adoré faire aussi sur le jeu vidéo des années 80. Je pense qu'il y en aura, on reviendra peut-être sur les commentaires en début d'année prochaine. On va commencer cette rétrospective, ce bilan de l'année 2017. Comme je l'ai dit, je trouve que c'est pas la même chose que les autres années. Il y avait peut-être 2011 de mémoire qui avait été peut-être une année aussi importante.
C'est déjà une année où Skyrim est sorti déjà.
Est-ce
qu'il y aura un lien de cause à effet ?
Peut-être. et là, en fait, on va commencer. On va parler des jeux marquants de chacun d'entre vous, mais en fait, il y a un consensus. C'est un tel consensus, je n'ai pas mémoire qu'il y ait déjà eu un tel consensus sur une année entière de jeux vidéo. Le consensus, on va regarder les images tout de suite, c'est évidemment Zelda Breath of the Wild.
Thank you. Depuis les temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du fléau, ce monstre que l'on nomme Ganon.
Zelda Breath of the Wild avec la Switch, c'est avec une line-up finalement qui était formidable parce qu'il y avait ce jeu-là. Hein, voilà. C'était un jeu qui a fait une line-up à lui tout seul. Enfin, il y en avait quelques autres, mais c'est finalement... Aussi, mais... Finalement, plus personne ne jugeait la line-up de la Switch parce qu'il y avait Zelda, parce que finalement, ce jeu suffisait largement à combler le premier mois, les premiers mois d'existence de la console. C'est, encore une fois, de mémoire, c'est jamais arrivé. Olivier, on peut en dire quoi aujourd'hui de ce Zelda ?
Bah déjà, rappeler, parce que maintenant, on est tous totalement dithyrambiques sur ce jeu, on dit tous énormément de bien, mais que ce n'était pas du tout une évidence. C'est-à-dire que les premières images qu'on avait du jeu, les premières vidéos, les premiers essais de gameplay même qu'on a pu faire, ne montraient pas à quel point ce jeu avait vraiment pris non seulement le concept de Zelda, mais aussi le concept de monde ouvert, le concept de jeu d'aventure, le concept de jeu de rôle aussi un peu, pris tout ça et complètement retourné la table pour en faire quelque chose qui est non seulement un des meilleurs épisodes de Zelda, si ce n'est le meilleur, mais après ça dépend, c'est des critères extrêmement subjectifs sur ce qu'on pense qu'est un Zelda ou pas, mais c'est aussi un des meilleurs jeux, des meilleurs jeux d'aventure en 3D, si ce n'est peut-être même le meilleur, depuis 10 ou 15 ans facile, quoi. C'est moi je sais que ça m'a même fait oublier des sensations d'Ocarina of Time à l'époque, ou alors peut-être que c'est ma mémoire qui flanche un petit peu et que j'étais aussi enthousiaste à l'époque, mais moi ça m'a plongé dans un enthousiasme sur du long terme en plus qui est juste formidable. Et c'est vraiment le genre de jeu où on arrive, qu'on arrive à la fin ou pas, en fait on y joue en se disant voilà, c'est pour ça que je veux des jeux vidéo, c'est pour cette expérience-là.
Et c'est vrai qu'il est, que tu disais très bien, c'est vrai qu'on était un peu méfiants sur les débuts, hein. Il faut se rappeler quand même qu'il a eu une genèse un peu compliquée, il a été annoncé sur Wii U pendant des années, reporté, on craignait un peu un portage opportuniste sur Switch pour dire vite, on case un Zelda pour un peu propulser la machine, et oui, effectivement, il suffisait de prendre la manette en main pour se rendre compte du... De la capacité de Nintendo à avoir assimilé beaucoup de choses, en fait, parce que l'open world, c'est pas nouveau. Enfin, on sait qu'il y a eu beaucoup de travail des éditeurs là-dessus. Et c'est vrai qu'il a vraiment apporté une vision bien particulière du genre.
J'étais un peu plus... j'avais pas autant de craintes quand j'avais pu le tester lors des différents événements, parce que j'avais pas mal aperçu cet aspect justement très malléable du gameplay, très organique. Et en fait, je pense que c'est un paradoxe qu'a eu ce Zelda-là, et c'est pour ça qu'il nous a autant bluffé, je pense, c'est que cet aspect organique, là, il n'en jette pas. Il n'en jette pas dans des trailers, il n'en jette pas dans des previews, il n'en jette pas. Et donc, quand on est intégré à l'intérieur et qu'on a compris, parce que c'est quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui demande à ce que notre cerveau s'y habitue, oui, ce Zelda pose de nouvelles bases pour l'open world, le jeu d'action et le genre Zelda. Il y a ces jeux, je vais prendre un autre bon jeu qui est sorti cette année, mais Mario par exemple a tenté de se révolutionner lui-même. Zelda a réussi à mon sens à révolutionner un genre entier, et un genre qui est en plus particulièrement prédominant dans le monde des AAA sur console puissante, qui sont les open world, parmi lesquels on peut trouver des Assassin's Creed et d'autres énormes jeux comme cela. Ce Zelda va rebattre les cartes, je pense qu'il y aura un avant et après Zelda, que d'autres jeux vont y jouer, tout comme d'ailleurs Zelda s'est inspiré d'autres jeux, hein, comme The Witcher, ce genre de choses, et vont poser de nouvelles bases. Je pense que ce Zelda va non seulement révolutionner sa propre série, mais aussi, je pense, tout un pan des jeux vidéo.
Et parce qu'il est vertigineux. Il est vertigineux quand on commence à jouer au bout d'une heure ou deux, quand on se rend compte la liberté qu'on a avec cette histoire, qu'on peut finalement complètement articuler à sa manière. On la traverse. Finalement, il y a assez peu d'obligations de
pour le coup, il n'y en a pas
du tout. Mais en fait, le joueur, on a vraiment cette sensation d'écrire sa propre histoire. Et ça, c'est vraiment particulier à ce titre. Je pense que vraiment, il laisse vraiment le joueur se faire son histoire. Et on l'a encore vu il y a quelques instants, chacun échangeait ici avant d'enregistrer.
La manière dont il a fini le jeu.
La manière dont il a traversé. Et ça, il y a quand même peu de jeux qui permettent ça.
D'avoir un truc identique à l'autre.
Et voilà, chacun raconte son aventure. Et moi, à chaque fois que je rencontre des gens qui jouent ou qui ont joué, c'est à chaque fois, à toi, t'es passé par quel. Comment tu l'as fait, dans quel sens. Ça, c'est quand même assez unique, assez particulier.
Et je pense que des jeux comme ça de cette envergure, c'est vrai, tu disais 10 ou 15 ans, mais il y en a très très peu. Il y a peut-être eu Mario 64, Ocarina of Time, tu l'as dit, je sais pas, GTA 3, des trucs comme ça, des jeux qui posent une base, et à partir de là, tout un univers de jeux vidéo découle. Et là, je pense que ce Zelda-là en est un, très clairement.
Oui, et puis ce qui est étonnant, vous l'avez déjà dit, mais c'est cette liberté absolue. La liberté, en fait, ce qui moi m'a fasciné, et me fascine encore parce que je continue à y jouer, c'est l'ambition initiale. Je la trouve absolument démesurée.
C'était une des craintes. Encore
une fois, le résultat est à la hauteur, mais rien que de penser l'ambition des créateurs au moment où ils ont mis sur papier, où ils ont pensé leur jeu, c'est quelque chose de... C'est peut-être là où ça s'est joué. C'est-à-dire,
lâcher la bride aux
joueurs,
ne
serait-ce que, voilà, ne serait-ce qu'on fait, on a suffisamment confiance en nous pour faire confiance aux joueurs.
C'est vrai que là, ça,
pour
c'est...
lui laisser, pour laisser aux joueurs la possibilité de se perdre dans notre jeu.
Et c'est là où c'est le meilleur par.
Qui aujourd'hui peut dire, je vais laisser mon joueur se perdre. Non, personne. Personne ne peut faire ça en 2017. Il y a personne
d'autre. C'est un jeu offline qui est pas multijoueur.
Personne ne peut laisser le joueur se perdre. On a trop peur que le joueur décroche. On a trop peur parce que aujourd'hui, combien de joueurs vont à la fin d'un jeu, etc. Non, mais vous vous rendez compte, si en plus il se paume,
après, c'est pas gratuit,
si en plus on ne lui donne pas de direction vers où aller, etc. Les joueurs vont. Eux, ils ont eu dès le départ l'ambition de faire un jeu tellement fascinant, tellement grandiose. Que bah, le joueur, il va se perdre.
C'est loin d'être gratuit. Enfin, je crois qu'il y avait eu des chiffres qui expliquaient qu'on ne peut pas passer plus de 5-10 minutes sans qu'il se passe quelque chose dans l'univers. On ne peut pas se balader et se perdre non plus. Ce qui fait que moi, j'ai passé un temps infini. J'ai passé des heures à ne pas suivre justement de mission ou quoi que ce soit, mais juste à explorer, à vivre des aventures au détour d'une rencontre avec des... Et ça, c'est magique parce qu'on se sent encore une fois vraiment aux manettes et on a vraiment cette impression d'écrire sa propre histoire. Ça, c'est vraiment très particulier.
Extrêmement risqué au-delà du gameplay lui-même et du jeu lui-même, c'est que si on prend vraiment un point de vue strictement commercial, c'est que c'était extrêmement casse-gueule de faire un jeu qui en fait s'adresse, enfin c'est un des rares jeux pareil de ces 10 dernières années qui s'adresse vraiment à tous les publics. Ça va aller de l'enfant qui découvre le jeu vidéo, qui va pouvoir quand même s'amuser avec. C'est un jeu en fait qui à aucun moment ne nous donne d'obligation, ni même d'obligation de le finir, ni même d'aller au bout de l'histoire. C'est un jeu qui s'offre en fait comme un bac à sable mais amélioré puissance 10 000, quoi. C'est à dire que c'est chacun va y trouver et y apporter des choses différentes parce qu'il y a autant de façons d'y jouer que de joueurs, il y a autant de façons d'y prendre du plaisir que de joueurs, il y a autant de façons de considérer qu'on l'a épuisé ou non que de joueurs. C'est qu'on peut éventuellement s'en lasser. Moi, pour l'instant, ça s'est pas encore arrivé, mais je crois pas que qui que ce soit pour l'instant soit lassé. Et pourtant, il a déjà, quoi, 8 ou 9 mois d'existence, ce qui est gigantesque pour un jeu. Et je vois, mais un exemple tout bête, c'est que moi, qui suis joueur un peu expérimenté, je me suis vraiment, vraiment amusé avec. Et j'insiste bien sur le côté amusé. C'est que je l'ai pas juste fait pour le challenge ni rien. Il y a des tas de moments dans ce jeu où je me suis amusé comme un gosse, quoi. C'est-à-dire que voilà, ce rocher, je peux le faire rouler sur une colline et le faire tomber sur des gens. C'est génial. Et j'ai une collègue qui a un enfant qui joue aussi, qui a 6 ou 7 ans, qui ira sans doute jamais au bout du jeu parce qu'il y a des challenges qui sont quand même très corsés, mais qui sera jamais frustré de jouer à ce jeu, qui aura jamais le côté « Ah, c'est trop difficile, ni rien », parce que rien n'est obligatoire. S'il y a un ennemi trop difficile, on peut tout simplement le contourner et faire autre chose.
Oui, et c'est la proposition la plus... voilà. Et comme je dis, j'ai jamais vu non plus un tel consensus. Je crois avoir croisé au courant de l'année quelqu'un qui avait un avis négatif sur Zelda, mais je me souviens même plus qui c'est.
De toute façon, il y a un test simple pour un Zelda. Si Pippo Mantis aime un Zelda, c'est qu'il est très très bon. Voilà. Et Pippo Mantis a plutôt aimé Zelda, donc c'est plutôt bon signe.
Pour le coup, c'est très impressionnant. On pourrait faire l'émission hein, sur Zelda Breath of the Wild, ça ferait un très bon bilan 2017. Mais on a d'autres choses.
Il faut dire qu'il a marqué l'année. Il est sorti en mars et c'est vrai qu'il a imprégné même tous les jeux en open world qu'on a traversé après.
Je pense qu'il risque de marquer la décennie aussi.
Particulièrement sur 2017 dont on parle aujourd'hui, moi tous les jeux en monde ouvert que j'ai fait après, je pensais tout le temps à Zelda. Enfin, c'est un point de comparaison automatique.
Aucun monde ouvert. C'est là où ils ont été forts, c'est qu'ils ont pris la théorie du monde ouvert, et comme tu as dit, ils ont renversé la table. On va faire autrement. Et ça marche, et c'est absolument fou.
C'est risqué sur une licence aussi emblématique chez Nintendo que aussi, Zelda. Enfin, c'est pas non plus n'importe quoi, Zelda.
Et surtout une licence qui était verrouillée, mais dans sa structure.
Très narrative, très.
Je pense que c'est ça aussi qui a fait un effet, on va dire, élastique. C'est-à-dire que c'était une licence tellement verrouillée depuis des années. La recette n'avait pas changé depuis Ocarina of Time.
Sur les derniers, même, c'était trop.
Que là, maintenant, on se reprend le retour de bâton. Parce que, oh waouh, ils ont tellement modifié le truc. Qui est ambiance, c'est incroyable, quoi. Voilà.
Et en plus, ça reste un jeu narratif. C'est-à-dire que ça arrive à faire un jeu narratif cohérent dans son histoire, dans son scénario, dans ses personnages. Il y a énormément de moments très touchants dans l'histoire du jeu. tout en laissant quand même liberté. C'est-à-dire que c'est une histoire qu'on se raconte à soi-même. Enfin, oui.
C'est pas là-dessus que je vendrais le jeu, cela dit.
Non, bien sûr, c'est pas l'argument principal du jeu, mais je trouve ça fort qu'ils aient réussi à le faire aussi.
On peut aussi le vendre sur, voilà, sur cette histoire qu'on se raconte.
Oui, c'est ça.
C'est sur la narration émergente. C'est la meilleure. Non, mais c'est vrai. C'est vrai.
Pour non, mais
c'est une narration qui vient des éléments, qui vient de ce bac à sable incroyable qu'ils ont réussi à mettre en place. Et la façon du moment où. Le moment où on a joué compte autant que ce qu'on a joué. Enfin, c'est quelque chose, c'est magistral. Bah, écoutez, on va commencer sur les jeux, sur le vos reste. Jeux, sur vos jeux marquants de l'année. On va commencer avec toi, Olivier. Alors, cette année 2017, autre que Zelda, évidemment.
Autre que Zelda. Moi, j'ai été pas mal marqué par beaucoup de jeux. C'est-à-dire que, comme tu disais, c'est une année qui est 2017 où vraiment, moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose de très intéressant dans la productivité de jeux intéressants. C'est pas juste dans la productivité pure. Et moi, il y a un truc qui m'a surpris parce que c'est une série que je connaissais un petit peu, mais je ne m'étais jamais plongé vraiment, c'est Persona 5. Persona 5 a été une très 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 grosse claque quand il est sorti pour moi. Parce que donc, j'avais fait le 2, j'avais fait les deux 2 d'ailleurs, j'avais fait le 3, j'avais un tout petit peu regardé le 4, mais vraiment sans plus. Et le 5, je l'ai commencé comme ça en me disant bon, je vais voir vers où va cette série. Et je me suis pris une claque, en fait, en termes visuels. C'est-à-dire que c'est un jeu qui n'est pas exceptionnel techniquement, évidemment, parce qu'il est même, je crois même qu'il est aussi dispo sur la génération précédente de consoles.
Ouais, je crois que c'est le même moteur que Catherine, donc...
Donc il n'y a rien d'extrêmement novateur, mais qui, dans sa gestion du côté artistique de tout, que ce soit le design des personnages, les musiques, l'ambiance générale, même les menus. Moi, c'est le truc qui m'a fait halluciner, c'est que même le moindre menu de base pour utiliser un objet est beau.
C'est Atlus, de toute façon. Voilà. Atlus, c'est les rois des menus. Hein. Alors là,
l'interface utilisateur, là, pour le coup, ils ont révolutionné la qualité de l'interface utilisateur de Persona 5.
Mais c'est tellement génial, car il y a des gens sur des conventions cette année d'anime ou de jeux vidéo qui sont venus déguisés en menu de Persona 5. Et ça marche. Il y a des gens qui viennent avec le appuyer sur X pour faire ça, appuyer sur carré et tout, qui se baladent dans les rues.
Bien sûr, ça fait partie intégrante de l'univers du jeu. C'est intégré même dans la présentation qu'on a de l'univers, en fait.
C'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est ce côté artistique total. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est superflu. Tout est là pour créer une œuvre vraiment au sens visuel et musical du terme.
Ah, musical aussi, ouais.
Et musical. La musique est formidable, la BO est juste incroyable. C'est rien que l'intro du jeu, j'étais scotché en fait devant. J'ai fait, ok, si c'est comme ça,
tout le long.
Avec cette ambiance-là en fond sonore, je passe des dizaines d'heures dessus, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai fait. Et alors, le truc paradoxal, c'est que je n'arrive pas à me pousser à finir ce jeu. C'est, je refuse que ça se termine. Je ne veux pas aller au bout du scénario.
C'est pour ça que je
suis au dernier donjon, je suis au dernier truc, et je tourne en rond et je ressors, je fais des trucs. Enfin voilà, bon, c'est limité parce que le jeu est limité dans son temps en fait, de jeu. Et pareil, il y a plein de choses intelligentes dans le gameplay aussi. C'est qu'on est limité, on sait que ça va durer une année en fait, et que chaque action entraîne le passage du temps et tout. Donc le jeu ne peut pas être infini. Mais. C'est bien amené, c'est bien foutu, on sent l'expérience derrière parce qu'on n'est jamais à la ramasse, on est toujours accompagné, on est toujours tenu par
la fin de Persona 4 The Golden avait été un peu traumatisante pour moi.
Ouais, bah oui, forcément.
Quand je me rapprochais de la fin du calendrier, c'était horrible.
Et en plus, c'est un jeu de poseur, mais au sens le plus positif que je peux donner à ce terme. C'est-à-dire que c'est tout est fait pour en mettre plein la vue, mais ça choque jamais, c'est bien fait, voilà, c'est magique.
Persona 5, en fait, c'est l'affinage de la recette Persona de la nouvelle recette Persona qui date du 3 plutôt. Voilà, le 3 posait un système un peu plus moderne par rapport aux deux premiers qui était quand même un petit peu austère, faut dire les choses. Le 4 avec son whodunit incroyable, certains diront oui, c'était cramé d'avance, moi j'ai été très content, oui moi aussi j'avais cramé mais vers la fin, donc c'était marrant, tu vois. Mais le 5 voilà arrive et dit bon, maintenant qu'on maîtrise tout ça bien, on va vous mettre une DA qui déchire, des musiques qui défoncent, des personnages sympathique, et je peux pas aller plus loin que sympathique, parce qu'en vrai ce sont tous des archétypes qu'on a déjà vu des milliards de fois ils sont tous parfaits, ils sont tous plus lisses les uns que les autres, et on les adore, moi aussi je les adore, et on est tous amoureux de Makoto, c'est pas la question, mais voilà, on peut pas s'empêcher à la fin de Persona 5 de se dire c'est quand même des choses qu'on a beaucoup vues, que ça soit dans l'animation japonaise, que ça soit dans les jeux eux-mêmes. Voilà, il y a il y a assez peu de risques sur la structure, qu'elle soit narrative ou sur la structure du personnage, qui reste excellente, hein, et le jeu reste excellent.
Mais c'est un jeu qui parvient à faire de son manque d'originalité une force, en fait.
Peut-être bien, je peux comprendre.
Comme tu dis, ça peaufine le truc.
On sent un petit peu dans son doudou, on est là, on est avec sa classe, on fait partie de la classe, on a la vie étudiante, c'est une deuxième vie, en fait, qui se développe quand on joue à Persona 5, d'autant que le jeu est long. Alors, c'est pour certains, c'est un bon point. Quand t'as un boulot, c'est compliqué et que tu dois tous les soirs, tu vas faire deux heures pour avancer.
L'aspect compliqué de Persona 5 et son plus gros défaut est de ne pas être un jeu portable.
Voilà, je suis d'accord.
Ça a été vraiment, moi, ce qui m'a bloqué, c'est que je ne pouvais pas envisager de rester autant d'heures dans un jeu du genre Persona, qui est un jeu finalement aussi contemplatif que... Enfin voilà, pour moi, c'est un truc qui va avec la mobilité, avec le fait de jouer un peu partout.
Et puis, pour rester sur cet aspect, peut-être recette, qu'ils ont toujours la même, Atlus, affine la recette, mais ne corrige pas certains défauts, à mon sens, des Persona. Alors moi, j'aimais bien... Alors, beaucoup de gens détestent, hein, mais moi, il se trouve que j'aimais bien les donjons aléatoires du 4. Et là, je t'avoue que les donjons qui sont très beaux, hein, belles ambiances, belle musique... C'est toujours thématisé, c'est toujours incroyable, t'as toujours des petites surprises et tout, mais ça reste des lignes droites, ça reste des énigmes pas super bien designées, et du coup, ça peut énerver quelqu'un qui aime bien les jolis donjons et trucs comme ça. Voilà, c'est les seules remarques que je ferai sur Persona 5, qui reste quand même un excellent jeu, surtout si vous aimez le genre.
On continue, cher Olivier, avec Thimbleweed Park,
oui.
qui sera recité un peu plus loin, mais de toute façon, c'est interactif, cette liste. Alors, parce qu'il est quand même arrivé deux fois. Je ne m'attendais pas, ça faisait partie des choses où je ne m'attendais pas vraiment à le voir ressurgir.
Oui, mais c'est un jeu qui est extrêmement attachant pour plein de raisons, et notamment parce que... Alors là, on a parlé avec Zelda de beaucoup la façon de renouveler un genre et de choses comme ça. Et là, Thimbleweed Park, c'est le contraire. C'est-à-dire que comment on revient aux fondamentaux d'un type de jeu qui est le jeu d'aventure en point and click, et comment on l'adapte aux technologies actuelles, mais c'est pas le cas, comment on l'adapte au style de jeu actuel, à la façon qu'on a de jouer actuellement. Et il y a, du coup, c'est plein de petites améliorations qui font qu'on n'a pas l'impression d'être devant un jeu daté, qui font aussi qu'on a cet aspect qui, à mon avis, est la principale qualité des point and click, et qui est ce qui nous manquait beaucoup, qui est le développement d'un vrai univers et d'un vrai scénario, et de quelque chose qui passe beaucoup par l'écriture, par le dialogue, par l'aventure. C'est que l'histoire de Thimbleweed Park en soi, quasiment au bout d'une heure, on s'en fout, en fait. Alors c'est juste, ce qui est intéressant, c'est la galerie de personnages, c'est la façon dont ils échangent entre eux, alors je ne sais pas si c'est lui qui est responsable de tous les dialogues, mais Tim Schafer, qui est un des respectables anciens du monde du jeu d'aventure, a fait un boulot formidable d'écriture des dialogues.
C'est plutôt Ron Gilbert. Hein.
Ron Gilbert, pardon, excusez-moi.
Ouais, Define respectable, c'est un...
Et Gary Winnick.
Dans le sens le plus,
étrange, le plus, voilà, illustre dans ce côté-là. Mais voilà, et on sent qu'il y a... Il y a ce côté artisanat du jeu vidéo à l'ancienne qui a su quand même s'adapter, notamment au support. C'est-à-dire que moi j'y joue sur Switch en ce moment, ça marche très très bien. On peut jouer sur PC, ça marche très bien. On peut y jouer sur son téléphone, ça marche très bien. C'est une multitude de supports possibles. Et qui fait qu'on s'amuse avec un univers et avec une vraie création qui a une personnalité, en fait, qui a une âme, tout simplement. Et je trouve que ça marche très bien.
Et beaucoup d'humour, surtout. Enfin, moi, j'ai eu des crises de rire sur certaines scènes. Parce que, comme tu disais bien, on a l'impression de jouer à un jeu de 87, mais quand même avec le confort d'aujourd'hui en termes d'ergonomie, en termes de... pas forcément visuel, parce qu'il y a un respect des codes de l'époque, mais quand même, on sent que c'est un jeu d'aujourd'hui, parce qu'il y a quand même 30 ans de point and click et de jeu d'aventure entre deux. On le sent dans le confort d'utilisation, dans la logique des énigmes aussi. C'est quand même beaucoup plus fluide qu'à l'époque. Mais oui, une galerie de personnages incroyables. Et vraiment, des situations qui m'ont fait vraiment rire. Et ça, c'est génial. C'est génial.
Parce que ça me marche beaucoup. Il y a des surprises.
Même à la fin de l'année, on ne spoil toujours rien. Et tu avais quand même cité, ça m'amuse, parce qu'on en a parlé, hein, dans Silence on Joue.
Tu as mis...
Non, ça fait partie aussi, c'est l'aspect subjectif d'une année. Tu as découvert quand même Skyrim en 2017.
Voilà, je m'en excuse pour ça. Voilà. Non, alors c'était pas la première fois que je jouais à Skyrim. C'est-à-dire que j'avais déjà essayé de jouer à Skyrim à l'époque, et pour des raisons qui m'échappent totalement, ma mémoire me fait défaut, mais je pense que j'ai pas eu le temps de m'y plonger vraiment, ou ni l'envie, ou ni accrocher suffisamment. Et là, je me suis dit, comme il ressortait en VR, il ressortait sur Switch, il est ressorti, il y a l'édition Legendary qui date un petit peu, mais qui est sortie aussi. Donc du coup, je me suis lancé sur Switch. Et c'était une erreur. C'est-à-dire que j'ai perdu une quantité de temps libre incroyable sur ce jeu. Et du coup, ça m'a permis. Alors, du coup, je me suis amusé à faire un test, moi, pour France Inter de mon côté, sur est-ce que Skyrim en 2017, quand on n'y a jamais vraiment touché et tout ça, est-ce que ça vaut encore le coup? Est-ce que c'est daté ou totalement pas? Et c'est incroyable de se rendre compte à quel point ce jeu est encore actuel dans sa façon d'impliquer le joueur dans un truc tout en le laissant très très libre. Et j'avais peur justement qu'après Breath of the Wild ou après d'autres jeux m'ont ouvert très 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 bien comme le dernier Assassin's Creed ou des choses comme ça, j'ai un peu ce côté oui c'est, ça a quand même 6 ans, c'est rugueux quoi comme truc, c'est pas hyper accueillant comme jeu non plus.
The Elder Scrolls c'est rugueux de base.
C'est rugueux de base parce que c'est extrêmement complexe.
Les menus sont un peu rustres.
C'est
hein,
d'ailleurs le seul reproche que je ferais vraiment au jeu, c'est que notamment sur Switch, j'ai pas compris pourquoi ils avaient pas rebossé sur le tactile ou sur un truc, il y avait quelque chose à faire, mais le jeu est tellement il est tellement riche en fait, c'est-à-dire que c'est le sapin de Noël avec 30 000 cadeaux en bas et voilà, on peut pas dire qu'il y a un cadeau qui a moins plu ou le sapin était pas beau ni rien. C'est un jeu qui a tellement à offrir en fait, qui est tellement généreux dans ce qu'il donne que bah même en 2017, voilà, même quand on retarde totalement comme moi, ça marche.
Ça permet de faire une transition avant d'arriver à ta sélection, Corentin, mais parce que on a parlé de Zelda, on va pas en parler aussi longtemps que Zelda, mais un des événements de cette année 2017, c'est bien sûr la sortie de la Switch.
Ouais, une console qui est comme Zelda. Tout le monde est en oh là là, qu'est-ce que ça va être encore ce truc.
Moi, j'étais très, 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 très. Voilà, de toute façon, je suis nul pour juger les consoles de Nintendo. Moi, je croyais pas à la DS. Hein.
L'émission qu'on avait faite juste après l'annonce de fin 2016, on était très, très sur la défensive. Ouais. Attention, les batteries. Parce qu'on attend toujours énormément de Nintendo, je pense.
Ça ressemble un peu à une usine à gaz, quand même, cette Switch.
J'attendais
plus beaucoup de choses de Nintendo, justement.
Moi, si c'est toujours quoi pareil, dès qu'ils ont un flop en termes de console, de toute façon. Mais oui, sûr que cette Switch faisait un petit peu peur, et la Wii U était une mauvaise expérience pour à peu près tout le monde.
Les années ont été longues, les années Wii U ont été longues sur la fin.
C'est pas forcément les mauvais jeux qui ont manqué, d'ailleurs, sur Wii U, c'est plutôt tout le reste. C'était dur de développer dessus. Au bout d'un moment, tout le monde était... On en avait marre, les menus longs, ça. Bref, c'était pas bien. Mais du coup, quand la Switch arrive, on se dit, oh là là, ils partent quand même sur un truc un peu osé, mais finalement, la recette fonctionne parce que la console est quand même bien designée. Enfin, plus je me penche dessus, plus je trouve que c'est la console des compromis en termes de design. Je pense que, OK, il y a des défauts, mais en fait, on se dit, ah oui, mais ce défaut-là, il compense cet avantage-là, etc. C'est beaucoup de choses comme ça. Et ça nous a quand même permis cette année, je pense que c'est le plus important, de trouver un nouveau terrain pour cette console qui est la nouvelle PS Vita, mais en populaire cette fois-ci. Donc, tous les indés vont dessus. Des portages en veux-tu en voilà de jeux de la génération précédente ou bien même de cette génération, puisque Wolfenstein 2 ou encore Doom ou Skyrim sortent dessus et tournent plus ou moins bien, mais dans l'ensemble quand même je pense qu'on a plus de bons portages que de mauvais portages. On a peut-être des cas comme Rime où ça marche pas très bien, mais voilà, le Doom en 30 fps il fait quand même plaisir même s'il y a des petites chutes de framerate. Et du coup ça permet pour notamment, j'en reparle encore, des gens qui n'ont pas le temps, de pouvoir utiliser tous ces petits temps morts de la vie que sont les petits coins, le métro ou ce genre de choses, de pouvoir se farcir un jeu de 60 heures et que ça puisse rentrer dans sa vie de tous les jours. Révolution dans les usages plus que dans le gameplay ou dans la manière de jouer.
C'est la force.
Et je pense que c'est une très bonne manière de réfléchir. On se met à la place de comment les gens vont parvenir à trouver le temps pour jouer à des jeux, plutôt que ça soit donc avec le confort de la télé ou avec le confort de la portabilité, et donner toutes les possibilités aux joueurs de le faire. Maintenant, ça serait bien que Nintendo le fasse aussi pour toute leur infrastructure online et tout ça, mais super. Et en plus, ils ont bien fait le taf. Leur OS est rapide. Apparemment, c'est très facile de développer dessus vu la vitesse où tous les jeux arrivent dessus. Apparemment, on est à des années-lumière de la Switch. Moi, c'est en fait cette console... Que la Wii, qui était une catastrophe, même Nintendo avait beaucoup de mal à développer dessus, ce qui est quand même un mauvais signe, faut dire les choses. Mais le fait que cette console arrive avec autant de jeux, donc ça lui a donné une dynamique. Nintendo a appris de ses erreurs, notamment d'un point de vue du calendrier de sortie. Il y avait un jeu important par mois qui sortait, et du coup, la console gardait une actualité, gardait un agenda. Ils ont pris toutes les erreurs de la Switch, ils ont fait OK, donc on va faire une checklist, puis on va annuler toutes les erreurs, et résultat, on a quand même un succès.
On craignait justement l'inverse, on craignait qu'elle soit coincée entre deux générations, qu'elle soit pas assez puissante pour aller taper les PS4, Xbox One, et que finalement soit une portable un peu... Et finalement, elle a fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'elle a par l'expérience de jeu, il suffit de la prendre en main et tout de suite on comprend qu'elle a, comme tu dis, une proposition vraiment nouvelle. Elle permet de redécouvrir des jeux. Moi, j'ai redécouvert pas mal de jeux indés que j'avais parfois loupés sur PC. Moi, j'ai passé un temps fou sur Binding of Isaac, par exemple, que j'avais plus ou moins passé sur PC. J'ai passé un temps fou dessus. Puis il est en cartouche. Moi, j'aime bien les cartouches. J'aime bien les cartouches. Non, mais c'est important aussi. Voilà,
on a tu les as léchés
non, non. Mais bon, on les met dans la main. On a sa cartouche, sa collection. Ça, c'est bien, quoi. Non, mais c'est vrai qu'elle a vraiment créé la surprise. Et puis c'est vrai, c'est vraiment une machine qui on sent qui est bien pensée. Maintenant, moi, on verra l'année prochaine comment ça va évoluer. C'est vrai que la Nintendo a quand même tiré ses grosses cartouches là qu'on connaissait. Il y a quand même, on a eu une année avec Zelda et Mario, c'est quand même pas rien. Ouais. Je crois même que c'est assez rare dans l'histoire de Nintendo d'avoir deux grosses cartouches qui sortent comme ça.
En fait, quand on regarde,
on a les Pokémon, je crois, qui sont annoncés. Le Mario Kart, qui était un épisode.
Une évolution, mais quand même, c'est le Mario Kart de l'Est.
Je pense qu'il y a pas mal de choses qui étaient restées de côté pendant la Wii U. Je pense qu'il y a eu des années de. Bon, on va attendre.
2015. Les derniers bons jeux sur Wii U sont sortis en 2015. C'était Splatoon et Mario Maker.
Donc, je pense qu'il y a une rétention de bons jeux qui sont arrivés là avec le. Ça s'est décanté avec la Switch qui est arrivée. Maintenant, on va voir l'année prochaine comment ça va.
On sait aussi que les jeux Nintendo ont une durée de vie de plusieurs années. Donc, en fait, finalement, ils ont mis. C'est vrai que Splatoon 2, Mario Kart, Super Mario Odyssey, Zelda, tu fais waouh.
Et ce qui est très fort avec cette machine, c'est que pour moi, elle ne vient pas, moi, à titre personnel, elle ne concurrence pas pour moi la PS4, par exemple. Parce que c'est une autre utilisation. Quand je suis dans le salon avec mon casque VR ou la PS4, c'est un usage. Quand je pars, je prends la Switch. Enfin, je trouve qu'elle a. Finalement, tout ça.
Et ça, c'est quand même un débat qu'on a déjà eu en 2006. Enfin, pardon. Bon, j'ai l'impression qu'on est de retour à la Wii, genre, Nintendo va prendre le pari de pas aller confrontamment avec la PS3. Et là, on refait le même truc, genre, on s'y attendait pas. Mais c'est bon, on peut réussir avec peu de puissance.
C'est pour ça qu'on parle d'une très bonne année 2017. Ouais. Oui. Parce qu'on a à la fois des consoles de génération 8 qui sont arrivées à maturité. On a vraiment des jeux qui arrivent vraiment à les pousser au maximum. On a même des nouvelles générations de cette génération de consoles qui arrivent. Et puis, on a cette Nintendo qui arrive, qui en plus propose des expériences de jeu un peu alternatives.
C'est leur philosophie.
Et je trouve que tout ça se met très bien en place, ce qui fait qu'on a vraiment.
Ils sont pas très bons en technique, autant aller sur l'original de toute façon.
Ça marche.
Non, c'est pas du tout pour me mettre en porte-à-faux par rapport à vous, mais moi je l'avais un tout petit peu vu venir. C'est qu'en fait, le truc, le moment où je me suis dit ça va cartonner, c'est que par rapport à la Wii U. Où dès le départ, quand ils ont présenté le truc,
personne n'avait compris.
Je me disais, je ne comprends pas ce que me propose cette console. C'est-à-dire que je me disais, je vois à quoi ça ressemble, je vois le truc, même en main, je me disais, je ne vois pas en fait l'intérêt du truc et je ne vois pas pourquoi ça marcherait plus. Pardon ? En revanche, sur la Switch, ce qui est très fort et ce qui fait que ça cartonne, notamment commercialement, c'est que tout le monde peut comprendre en voyant le truc l'intérêt de cette console. C'est-à-dire qu'il y a le côté très simple avec le dock. Ouais. Je branche, c'est sur mon salon, je débranche, c'est dans le métro, c'est ailleurs, c'est n'importe où. Tout le monde peut comprendre ça, c'est hyper simple. Et en plus, ça a été complété, moi, ma seule inquiétude sur la réussite de cette console ou pas, c'est est-ce que les éditeurs, et notamment les indépendants, vont suivre. Et là, voilà, là, c'est le tsunami, tout le monde arrive, tout le monde se met dessus, il y a plein de jeux indépendants, comme tu disais, qu'on redécouvre ou qu'on découvre directement sur la Switch, ça a un vrai intérêt. Et voilà, c'est super, c'est que le concept est simple et fonctionne, et je suis en train de décéder.
Hey, en direct. Pas grand chose d'autre à rajouter, si ce n'est que, effectivement, en fait, je trouve très intéressant le côté effectivement où on s'intercale dans les moments pour permettre aux gens de jouer là où ils ne pouvaient pas jouer avant.
C'est plus les usages que les simples chiffres.
Ça a marché à 100% pour moi, et c'était assez incroyable. On va passer à toi, Corentin. Ouais. Et parce que je pense que ça va être le premier dont on va parler, on va regarder quelques images de PlayerUnknown's Battleground. PlayerUnknown, Battleground, PUBG, PUBG, comme vous voulez, qui vient tout juste, alors voilà, c'est un des jeux de l'année 2017, et vient tout juste de sortir là, maintenant, hier, au moment où on enregistre, avant-hier, si vous nous regardez sur nos lives.
C'est bien parce que les gens attendaient depuis très longtemps pour y jouer et ça fait plaisir.
Ah oui, voilà, évidemment, personne n'y a joué en version alpha, bêta, tout ça. Non.
C'est totalement confidentiel.
Confidentiel, hein, c'est 25 millions de joueurs d'achat.
C'est une surprise.
C'est un truc que peu de gens ont vu venir, que tout le monde a vu débarquer en mars au bout d'une semaine ou deux, parce que pour ceux qui regardaient Twitch, ça a été envahi. Tous les streamers FPS ne jouaient plus que à ça. Et parmi, voilà, parmi les plus gros streamers de Twitch, Dr. Disrespect, Shroud, Summit, enfin tout le monde s'y est mis et n'a joué plus que à ça. Ce qui fait que tout le monde s'est mis à y jouer et du coup bah ça a détrôné League of Legends sur Switch sur pas sur Switch
sur Twitch, hein.
Sur Twitch ça a détrôné tout le monde en temps de jeu et en tout ça sur Steam. Enfin voilà, on ça a battu à peu près tous les records de l'année.
Alors PlayerUnknown's Battlegrounds, je pense que c'est moins la réussite d'un studio et d'une et d'un jeu que la réussite d'une recette en fait. C'est une recette qui a été adaptée ou en tout cas qui s'est retrouvée peut-être par hasard, je sais pas trop, mais qui se trouvait être particulièrement adaptée pour un usage qui est quand même massif des jeux vidéo et qui est le streaming et le fait de partager sa partie. PUBG, c'est fun à regarder. Que tu aimes le jeu vidéo ou pas, si t'as un pote qui t'explique un peu comment ça fonctionne, il y a des histoires qui se créent. On parlait de narration émergente tout à l'heure.
Exactement.
On est là-dedans en
complètement
en
parallèle avec Zelda. Pour moi, c'est l'année de la narration émergente avec PUBG et Zelda.
C'est chaque...
beaucoup ce terme, narration émergente.
C'est chaque partie est une histoire, en plus une histoire drôle, parce qu'il se passe des trucs idiots, que ça se passe bien ou mal, on est heureux, on rigole, on passe du bon temps, on a envie d'y jouer, on l'achète, on s'y met, on Twitch à son tour. C'est le virus, ce truc. Oui. En fait, c'est vraiment voilà, ce concept du Battle Royale qui existait pourtant, mais là qui a été en fait
Qui a été concrétisé par Brendan Greene. C'est monsieur Battle Royale quand même, avec Arma, avec...
C'est donc cette recette, qui a, comme tu dis, qui a été concrétisée. Donc voilà, on va faire un vrai jeu, on va faire les choses sérieusement, on va en faire un truc, et bam, ça marche. Résultat, je crois qu'aujourd'hui, il me semble avoir vu des classements Twitch, pour prouver que c'est pas un jeu, mais plutôt une recette qui fonctionne, c'est que je crois que... comment s'appelle le jeu qui a copié la même recette là, vous savez, le
Fortnite
voilà, Fortnite je crois a dépassé en termes de vues Twitch sur un jour ou quoi, donc preuve que c'est la recette en fait qui est particulièrement attractive à regarder.
Et sachant que Fortnite est gratuit hein, aussi hein, il triche un petit peu hein.
À regarder ouais, mais à regarder du coup oui. Enfin les gens regardent du Twitch oui. Bref mais quoi qu'il en soit, PUBG en plus fait les choses bien, puisque on en avait déjà parlé dans cette émission sur PUBG, mais place les règles de manière stricte. On a une zone qui rétrécit, on est largué sur un axe de l'avion qui passe, la zone diminue de manière méthodiquement calculée, le loot ne se trouve que dans les maisons et il y a des densités de maisons spécifiquement choisies. Il y a une méthodologie du Battle Royale qui a été finement concoctée par Green et qui fait que on a une espèce de, on va dire, discipline en fait qui s'est créée et qui est agréable à regarder, que ce soit en amateur ou même en e-sport, parce qu'il y a des, voilà, des tournois qui commencent à s'organiser, des choses comme ça. Et en plus, voilà, je trouve qu'ils sont assez forts pour bien distiller les nouveautés. Donc il y a une phase, cette phase d'alpha qui est quand même hallucinante. Enfin, plus jouée que beaucoup de jeux qui sont sortis. Et là,
Tous les jeux qui sont sortis. Année, il n'y a pas de concurrent. Il n'y a pas de concurrent. Ils ont annoncé 2 milliards d'heures de jouets. Enfin, c'est.
Ouais, c'est clair. Mais du coup, voilà, on a ce jeu qui arrive avec des nouveautés qui sont finement distillées. Chaque nouveauté qui arrive est un petit événement.
Hop. Ça va être une arme, ça va être un véhicule. Mais surtout des armes.
On peut grimper. La nouvelle map qui vient d'arriver, donc, dans le désert.
Qui vient tout juste d'arriver.
Autant vous dire que ça va repartir à la hausse. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de relancer PlayerUnknown, quoi, pour essayer la nouvelle map. Mais voilà, donc c'est toutes ces circonstances-là. C'est un jeu qui est. On peut pas faire plus ancré dans son époque que PlayerUnknown Battleground. Et donc, finalement, c'est pour ça qu'on a un phénomène aussi impressionnant. Et voilà, peut-être l'autre gros événement de cette année, ouais, c'est PlayerUnknown's Battlegrounds, sans hésiter.
Avec une sortie Xbox aussi.
Ouais. Alors techniquement, craquera. Hein,
Techniquement, la sortie Xbox, on est limité à 30 frames par seconde, ce qui passe, mais est un peu, quand on vient du PC, c'est un peu compliqué. Forcément, en termes de gameplay, c'est un peu plus compliqué au pad que à la souris, parce que surtout, en fait, le pad est pas compliqué pour les FPS à partir du moment où on est sur des FPS nerveux ou
Call
of Duty, sur des choses très nerveuses. PUBG, on n'est pas sur du skill absolu, sur du skill nerveux, on est sur du skill de repérage. Il faut repérer son ennemi et après tirer de loin, se pas se faire voir, etc. Et du coup, toute cette phase au pad de viser en mode snipe, tout ça, enfin, je sais qu'il y a des gens qui y arrivent très bien, mais c'est un petit peu compliqué. L'autre aspect compliqué, c'est que PUBG, tu l'as dit, il y a énormément de règles de PUBG. Il y a une interface qui est complexe à prendre en main, mais on y arrive parce qu'on a envie d'y arriver et qu'on finit par y arriver. Mais on est sur avec la souris, avec ce genre de choses.
En fait, c'est bien, là, le meilleur tuto du monde, c'est Twitch. Il suffit de regarder des streams pour comprendre un peu les règles.
Mais j'avoue que le pad, c'est hardos. Hein. Toutes les touches, les 17 touches du pad sont utilisées, mais avec des combinaisons, avec des choses qui varient, avec des... ne serait-ce que looter, prendre les objets, les mettre où on veut. Alors, c'est le même problème pour tout le monde, vu que tout le monde joue sur Xbox. Donc, c'est déjà ça. Donc, tout le monde a cette même lenteur. Mais c'est... voilà.
Mais sachant que, selon moi, dans un sens, vraiment pour caricaturer, la qualité du portage, quelque part, on s'en fout. Ce qui comptait, c'était de l'avoir.
Ouais.
Et ça se voyait, quand je suis passé à la Paris Games Week cette année, sur le stand Microsoft, il y avait un stand gigantesque de PlayerUnknown's Battlegrounds. Avec, qui tournait certes sur PC, mais on sentait qu'il y avait cette envie de dire on a entendu ce truc de c'est le jeu de son époque, comme tu disais, ça résume vraiment ça. Et bah, du coup, nous on y sera et on sera sur ce rendez-vous-là. Et quelque part, tant pis si le portage est un peu moins bien, puisque comme tu disais, tout le monde est à égalité de toute façon. Donc voilà, après, chacun a les mêmes difficultés et chacun s'adaptera. Mais il y avait cette volonté de frapper très très fort de la part de Microsoft en disant ça c'est chez nous quoi. Voilà. Et ça, et on est pile sur le truc dont vous avez entendu parler toute cette année, et ben il est sur votre console.
Il a été patché, enfin moi je l'ai découvert sur Xbox One un peu sur le tard, j'avoue, je l'ai découvert vraiment récemment, et il a eu un patch assez important là, il y a quelques jours, début de semaine. Il me semble que ça a fluidifié pas mal l'animation. C'est vrai que moi le premier contact c'est mais il est pas beau ce jeu, non, c'est quoi. Et puis bah il est incroyable, c'est ce côté, on y revient tout le temps en fait, on finit une partie, on relance tout de suite. c'est vrai que moi ça m'a rappelé ce qu'on dit souvent, qu'une partie de jeu d'échecs c'est une vie en fait qui se joue. Une partie de jeu d'échecs c'est une image qui est souvent utilisée, et c'est un peu l'impression que j'ai sur une partie de
c'est
que voilà, il se passe tellement de choses imprévues, etc. Et c'est vrai que c'est incroyable.
Il y a un début, une fin, avec un peu de chance il y a un milieu.
Ça peut aller très très vite selon on se parachute, etc. Et c'est vrai que c'est un vrai phénomène. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le coup sur la manette, c'est vrai que c'est pas évident, notamment sur l'inventaire. C'est là où j'ai un peu galéré.
Franchement, il y a un vrai plaisir à apprendre à contrôler ça sur PC, j'avoue que. Et sur la manette.
Mais c'est un vrai argument pour Xbox. Ils ont vraiment nez, clairement, de signer ce titre qui, en plus, est une exclue pour l'instant, je crois. Qui va rester un petit moment. Donc c'est Xbox. Et ça, je trouve que ça correspond bien à leur image, plutôt gamer, plutôt.
Là, pour le coup, on peut dire 2017, c'est. Zelda et PUBG, enfin voilà, c'est les deux monuments qui ont un peu. Alors allons rapidement, malheureusement, ça va être que des jeux importants, mais on va aller rapidement sur tes autres jeux marquants.
Bon, alors Nier, début d'année, suite d'un jeu, on va dire, qui a une grosse communauté de gens qui le défendent ardemment, alors que objectivement le jeu n'est pas ouf, le premier Nier qui est sorti en 2010, je crois, 2008, je sais plus. Ce Nier-là, repris par donc Platinum Games, obtient tout le savoir-faire de gameplay de Platinum Games, c'est-à-dire un gameplay vraiment, on va dire, souple et agréable. Problème, il s'étouffe beaucoup trop vite ce gameplay-là, mais pour moi, c'est un grand jeu de cette année pour l'univers, l'histoire, l'ambiance. On discutait de Soma hors antenne tout à l'heure, mais pour moi, c'est les mêmes thèmes qui sont traités de manière un peu plus japonaise. Voilà, ça fait des scénarios un peu plus à la Metal Gear, donc il faut rentrer un peu dans le genre de scénario qui font mal au crâne, où tu sors à la fin, t'es là en train de réfléchir, tu vas sur Wikipédia pour comprendre. Bon, tout ça, c'est ok, je suis d'accord, et c'est pas forcément pour tout le monde. Il a plein de défauts, mais en ligne droite, en faisant extraction avec un petit peu de patience et de longueur de temps pour essayer de rentrer dans cet univers, c'est incroyable. Et quelle bande originale, mon Dieu, c'est la plus belle bande originale de cette année. On a eu plein de bandes originales. Mario, Zelda a réussi à révolutionner un genre, Mario s'est révolutionné lui-même, il a tenté, je trouve que c'est un peu
Mario Odyssey.
Super Mario Odyssey, c'est un peu mythique, mi-raisin. Je suis pas ultra convaincu, on passe quand même un super moment, c'est qualité Nintendo, c'est fini, c'est fini.
On peut pas en dire du mal, c'est
pas la révolution Zelda.
La tentative qui est là, c'est-à-dire que même si c'est pas aussi abouti que Zelda, mais on vient de dire que Zelda c'était exceptionnel comme réussite.
ça pouvait pas être autant. Enfin, si ça avait été autant, là, je sais même pas ce qu'on faisait.
Pour moi, il a réussi un truc, Mario Odyssey, c'est qu'il m'a fait ressentir ce que j'avais ressenti que Mario 64 à l'époque. Mmh. Sur ce rapport aux environnements, au level design, c'est vraiment des choses que j'avais.
Le level design, j'ai pas trouvé bon, Mario 64.
Ah, il est moche.
Bon, allez, on va. Il est
moche. Je parle de la construction des niveaux, et moi, je trouve qu'il y a ce foisonnement.
Mais bon, ça reste un. Mais ça reste un indispensable, clairement.
Je continue à bien m'amuser, donc.
Ah non, ça me super bien. Il faut y aller, le Mario est cool. Un petit mot sur Splatoon 2. Le Splatoon 1, moi je l'avais trouvé ultra ingénieux, ultra intelligent, du Nintendo pur jus. Il est sorti sur Wii U, pas de bol. Du coup, ils ont ressorti le 2, c'est le même avec plus de choses. Ils peuvent le faire une fois, ils le feront pas deux. Hein. Le Splatoon 3 doit être un peu plus que ce que Splatoon 2 là.
Je vais rappeler 2 d'ailleurs, ça a pu être.
Ça aurait pu être Splatoon de luxe, hein, très clairement. 16 Splatoon de luxe. Et oui, jouer à Splatoon, c'est vachement drôle, tout est sympa. Pour les enfants, c'est super, on leur fait pas tirer sur des gens, mais avec de la peinture. Splatoon 2, c'est frais, j'apprécie. Et puis voilà, c'est bien. C'est une nouvelle année.
Voilà, c'est une nouvelle année. Tu voulais, parce que vous étiez deux à vouloir en parler, d'entendre pas V3, quand même. Un mot pour laisser un peu de temps à Patrick qui commence à.
C'est une trilogie déjà, donc le tout dernier jeu, le troisième, vient tout juste de sortir. C'est un jeu qui est à la fois extrêmement inventif et extrêmement classique. C'est-à-dire que c'est un visual novel, ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un truc typiquement japonais de on enchaîne des lignes et des lignes et des lignes et des lignes de texte.
C'est comme Phoenix Wright, celui-là, il est plus proche en Phoenix Wright, si les gens connaissent.
Sauf qu'il y a cet univers qui est complètement barré. Alors que moi j'adore. En fait, si on aime.
Est-ce qu'il faut avoir fait les deux premiers pour jouer à celui-là?
C'est quasi essentiel.
Moi j'ai fait que le premier, j'ai raté le deuxième.
Il est conçu pour être fait sans les deux premiers, mais franchement, vous passerez à côté d'un truc si vous ne faites pas les deux premiers.
Si tu ne fais pas les deux premiers, tu rates des niveaux de lecture, notamment sur les deux, trois derniers chapitres et la fin. Qui sont excellents parce que, alors vraiment, je veux pas
spoiler. C'est impossible.
Mais il y a des choses en fait qui répondent aux deux premiers épisodes et qui te font avoir un regard complètement différent sur les jeux que tu as déjà fait avant. Et c'est très très malin en fait dans sa construction. Et surtout, ça a l'air complètement débile comme je vais le dire, mais je vais le dire quand même. C'est un jeu qui te permet de faire des procès de lycéens menés par un ours psychopathe qui leur conseille de tous s'entretuer avant la fin du jeu. Voilà, juste ça.
Voilà, c'est vendeur, c'est bien. Et tu citais aussi, moi j'avais dans la liste que tu avais mis Golf Story que j'ai fini aussi, mais parce qu'il est trop cool.
Il est aussi bien que sa BO est nulle. Voilà.
Exactement. Patrick, toi tu avais mis Zelda, Mario,
oui parce que ça reste. On est tous d'accord là-dessus, je pense que. Moi Mario, je le mets sans hésitation.
Tu mets très haut Thimbleweed Park dont nous avons
évidemment,
parlé.
Parlé. C'est un grand moment de jeu et puis ça rappelle plein de choses.
Quand même. Resident Evil 7.
We need to go now.
What the fuck are you?
Shut up and listen if you want to stay alive. Ethan. You gotta get out of that house.
Nous a permis de nous replonger dans cette ambiance chatoyante.
Ah oui, qui est très très chaleureuse et très. Resident Evil 7 passe pour lui-même déjà, parce que c'est un épisode canonique de la saga culte de Capcom qu'on aime beaucoup, qu'on aime suivre, qu'on aime critiquer, parce qu'il y a aussi des ratés dans la série. Et je trouve que le Resident Evil 7, c'est un bon opus parce qu'il remettait les choses à plat et il était assez expérimental sur des. Il tentait des choses, voilà. Il essayait de repartir sur une nouvelle base en termes d'ambiance, évidemment de mise en scène, avec une vue subjective assez poignante. Et pour moi, c'est avant tout aussi un titre qui synthétise ce que peut amener la réalité virtuelle. Moi, c'est un jeu que j'ai fait entièrement au casque de réalité virtuelle. Je sais que c'est un choix de vie.
Mais quand j'y repense à ça, je ne comprends
pas.
Mais
c'est là, où pour moi le jeu a été conçu pour. Donc il méritait vraiment d'être fait au casque. Et c'est là où il prenait vraiment toute son ampleur.
Son
côté inquiétant, je pense. Moi, le peu de fois où je l'ai essayé un petit peu sur un écran classique, je trouve qu'il perdait beaucoup de son ambiance, de son rapport qu'on avait à l'espace. Pour moi, la réalité virtuelle, c'est ça, c'est un rapport bien particulier à l'espace, ces sensations d'être vraiment dans les endroits. Et c'est vrai, quand on est dans la fameuse maison poisseuse dont on a revu les images, il y a une vraie sensation très particulière. Et je trouve que la peur, évidemment, en réalité virtuelle, elle est boostée. Enfin, l'ambiance, justement, encore une fois, ce rapport à l'environnement, il est central dans Resident Evil, dans un Survival Horror, c'est central. Ce rapport qu'on va avoir à l'ouverture d'une porte, ce rapport à un côté obscur d'une pièce où on ne voit pas bien le fond ou ce qui s'y trame, et ça, en réalité virtuelle, je trouve que ça...
C'est juste sans aller dans le détail, mais pour moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette démarche. Et j'ai mis du temps à comprendre. J'ai fait une interview avec Mathieu Triclot. On a parlé de réalité virtuelle et ça m'a un peu éclairé là-dedans. C'est que finalement, dans les survival horror qu'on regarde sur un écran, on a envie d'avoir peur. On se projette dedans. Mais on se projette, avec gourmandise. Enfin, parce que
dans le confort, ton canapé.
Oui, mais on se projette dedans. On a envie d'être dedans parce que voilà, on sait aussi que ça n'est qu'un jeu et donc Et sauf que j'ai l'impression qu'en réalité virtuelle, tu peux pas te projeter dedans autant. Au contraire, t'es en défense. C'est-à-dire, tu te refuses, tu es en train de te dire constamment, attention, non mais c'est qu'un jeu quand même.
Ah
c'est...
Non, si tu joues et que tu prends plaisir au jeu, tu n'es pas dans ce
mais tu ne peux pas te croire dans le jeu, parce que si tu crois dans le jeu et que tu as en plus le casque, tu meurs de peur. Enfin,
tout dépend de la mise en scène.
Il y a un moment où le corps humain est ainsi fait que ton corps réagit au vrai danger. Et si tu crois que c'est un vrai danger,
Survival horror, c'est justement le but, c'est de te mettre à la place d'un personnage qui est dans une situation difficile avec peu d'armes, etc. Et là, justement, en réalité virtuelle, tu vois tout en vue subjective, tu ressens d'autant plus. Mmh. Et là, c'est là où je trouve que la qualité de la mise en scène est bien particulière lorsqu'on est en réalité virtuelle.
Même du gameplay, réfléchis.
Et R7 jouait vraiment bien là-dessus, sur les angles de vue, les lumières. Et là, ça prend une intensité qui est difficilement envisageable sur un écran classique. Je trouve que ce rapport à la lumière, à l'espace, est vraiment particulier. Et Resident Evil 7, pour moi, aujourd'hui, c'est un des titres qui a le mieux su gérer ça, parce qu'en plus, on est sur un jeu long, ce qui est quand même rare, en réalité virtuelle aujourd'hui on a beaucoup d'expériences rétrécies sur quelques heures. Là on était sur un vrai jeu jouable sur les deux formats, c'était nouveau ça aussi d'avoir un jeu long, une expérience à part entière qu'on pouvait faire entièrement en réalité virtuelle, donc il y avait une ampleur aussi dans l'expérience. Et encore une fois, moi, des fulgurances de mise en scène qui m'ont vraiment frappé, des combats de boss, je vais pas spoiler, mais il y a des moments vraiment où j'ai applaudi en disant mais ouais, en termes de mise en scène, il y a quelque chose de très très osé et qui moi m'a marqué et que j'oublierai jamais. Il y a vraiment des séquences effrayantes mais en même temps c'est ce qu'on cherche quand on joue à un Resident Evil, c'est aussi ce frisson, ce rapport à l'inconnu.
Déjà sur ta télé, moi déjà il fait flipper
Je suis d'accord avec ce que dit Erwan en fait sur ce côté là et c'est aussi ce qui m'a posé problème. Alors du coup je l'ai pas fait en VR, je l'ai fait vraiment uniquement sur écran, et en fait R7 c'est un jeu que j'ai trouvé objectivement excellent en tout point, c'est-à-dire que c'est... rien que le design général du jeu, les ambiances, le moindre petit détail qu'il y a, c'est-à-dire que c'est une vraie maison de film d'horreur, mais poussée presque plus loin que la maison hantée chez Disney ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Il y a des textures qu'on voit, il y a des choses, il y a des photos, il y a tout est magnifique du début à la fin. Alors, l'ambiance
est magnifique,
Est magnifique, l'ambiance est formidable et c'est un truc auquel je suis resté totalement hermétique. C'est-à-dire que je n'ai jamais réussi. C'est un jeu où j'ai avancé en ne cessant de me dire c'est extrêmement bien fait, ça en termes de mise en scène c'est bien, ça c'est super, ça c'est bien vu, mais je suis jamais rentré dedans. Je me suis jamais amusé en y jouant en fait. C'est-à-dire que j'ai avancé en me disant. Un peu comme quand tu vas dans un musée sur un peintre vraiment que t'aimes beaucoup, un truc comme ça, et que tu vois les présentations d'étoiles en vrai, tu as ce côté, tu y vas un peu pour ton plaisir personnel, certes, mais tu y vas aussi pour essayer d'analyser un petit peu, de dire tiens, qu'est-ce qui marche là, qu'est-ce qui marche pas, et tout ça. Et moi, ça m'a fait cet effet-là, et du coup, j'ai trouvé que c'était un jeu qui pour un jeu d'horreur, est très froid. Et un autre truc qui m'a un peu dérangé, mais du coup, par comparaison avec tous les précédents, je trouve ça bien qu'ils partent sur de nouvelles pistes et pourquoi il y a d'autres licences en fait qui font très bien ce que faisaient les Resident Evil d'avant, donc pourquoi continuer à s'acharner à pas créer. Mais moi j'aimais bien le côté série Z un peu marrante quoi avant, c'est à dire que les premiers Resident Evil, on y jouait, on pouvait y jouer. J'étais ado quand ils sont sortis, donc j'étais encore un peu flippé sur des trucs. Il y avait du sang à l'écran, ah mon dieu, c'est horrible. Mais on a passé un peu ce cap-là tous. On voit à quel niveau faut arriver maintenant dans R7 pour faire peur et pour trouver quelque chose de dégueulasse. On est quand même parti très loin. Mais il y avait ce côté fun toujours, c'est-à-dire qu'il y avait le côté, on pouvait toujours relativiser en fait la violence à l'écran comme.
comme un côté un peu hommage à des films un peu second degré.
L'intro en vidéo qui était super kitsch, qui
voilà,
rentrait dans
tout
le.
Était kitsch
en dans même temps, enfin, moi je rêverais d'un remake du premier Resident Evil en réalité virtuelle, mais est-ce que ça marcherait? Je pense que aussi cette ambiance très particulière du set qui repartait sur de nouvelles bases, qui réécrivait un petit peu la mythologie visuelle de Resident Evil, marchait bien aussi avec le côté réalité virtuelle, donc de nouvelles manières d'appréhender l'univers.
Le set, c'est un peu le premier avec les techniques d'aujourd'hui et avec la façon de faire au niveau de la mise en scène d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est comment on ferait le premier Resident Evil à l'ère, bah, comme tu dis, de la VR.
Moins léger en termes d'ambiance.
On est passé, il y a Silent Hill qui est passé, il y a Outlast qui est passé, il y a Soma, il y a eu Amnesia, il y a eu des jeux comme ça qui ont joué énormément sur l'ambiance. C'est comment on a rajouter des ingrédients qui se sont ajoutés au fil de l'histoire du jeu vidéo à une recette qui, au final, scénaristiquement même, est quasiment identique à celle du premier. Il y a toujours ce côté...
Et puis qui inspire de beaucoup de choses du cinéma aussi. Enfin, voilà. On connaît tous les clins d'œil.
Merci. j'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est quand même que un des jeux que j'ai considéré comme étant un des jeux de l'année alors qu'on était au début de l'année, un peu comme toi avec Resident Evil 7, c'est What Remains of Edith Finch, qui a été une claque absolue. Il fallait que j'en parle. C'est un jeu où avec comment on appelle ça, les walking games, walking simulators, mais là c'était pas vraiment ça parce qu'il y avait des tableaux, il y avait un jeu sur le gameplay différent à chaque tableau. Il y a des tableaux, hein, franchement, il y a certains tableaux, on pense évidemment ceux qui ont joué au tableau de l'usine de poissons, qui restera pour ceux qui ont joué dans la mémoire pendant hyper longtemps parce que c'est des trouvailles, c'est des moments. En fait, ça propose des moments de jeux vidéo. Avec une force narrative, des propositions absolument dingues. Et franchement, ça m'est resté. Voilà. Et ça m'a presque fait du bien de me remettre le cerveau dedans pour ça. J'y ai repensé et c'est vrai que ça a beaucoup...
Pour ceux qui s'intéressent à la scène du poisson, sur Edith Finch, il y a Mark Brown, le YouTuber qui fait beaucoup de vidéos de game design, qui décortique cette scène et qui explique pourquoi elle est vachement bien faite, notamment sur le fait qu'on ne coupe pas les poissons de manière régulière et tout ça. Enfin, c'est incroyable. Je vous recommande d'aller voir sa vidéo sur ces grands moments de game design de 2017, justement.
Et bien, merci. On avait énormément d'autres choses dans le programme de cette émission, mais énormément. Hein. Il y avait on n'a rien fait, Mais il faut, mais c'était une très grande année cette année 2017. Merci déjà de l'avoir passé avec nous, avec Silence on joue, même si cette fin d'année a été un peu bousculée en termes de régularité, mais on va essayer l'année 2018. On va commencer sur des bonnes bases, je pense. Et avant de nous quitter, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, mais on répond très vite. Attention, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Olivier ?
En ce moment, je regarde The Punisher sur Netflix. Je continue mon parcours à travers les séries Marvel Netflix, qui est parfois ponctué de belles surprises et parfois.
Pas terrible.
Alors, c'est objectivement.
Donc,
c'est
Jessica Jones ou Daredevil ?
On est plus proche de Daredevil parce que c'était un personnage secondaire déjà de la saison 2 de Daredevil. Je le trouve, c'est une bonne série. C'est pas une très, enfin pour moi pas une très bonne adaptation de Punisher parce qu'on a presque l'impression que c'est trop gentil sur plein de trucs. Ça qui est le scénario.
C'est pas le Punisher de Garth Ennis.
Plus trash, c'est beaucoup plus ambivalent. Là on a quand même dès le début. Et c'est dommage parce que dans la saison 2 de Daredevil, il jouait beaucoup justement sur l'ambivalence du personnage, sur est-ce qu'il est gentil ou méchant au fond ou est-ce qu'il est aucun des deux. Là sur cette saison là, on est quand même beaucoup sur une histoire de complot. Genre il y a les méchants qui tirent les ficelles dans l'ombre et le Punisher va mettre un peu d'ordre dans tout ça. Bon, c'est plus classique, mais ça regarde, c'est vraiment sympa.
Quentin ?
Je vais sûrement faire plaisir à des gens dans le studio et des gens qui regardent No Life, parce que je suis allé voir The Night is Short, Welcome Girl, qui est donc le dernier film de Masaaki Yuasa, qu'on connaît pour des films comme Mind Game, qui a fait la série Tatami Galaxy, qui a fait Lou et l'île aux sirènes, qui est sorti cette année, qui est excellent aussi. Et donc, The Night is Short, Welcome Girl, c'est, alors pour le coup, c'est vraiment dans le même univers que Tatami Galaxy, donc qui était sorti il y a quelques années, qui était une série, qui est basée sur les mêmes romans de la même personne, et ça raconte l'histoire tout simplement d'une jeune fille qui va découvrir un petit peu les joies de la vie d'adulte sur une seule nuit qui représente une année entière. Oui, c'est très bizarre comme concept, où elle va découvrir les joies de l'alcool, de l'amour, de tout ça, dans une animation incroyable, puisque c'est Masaaki Yuasa, et que de toute façon ce mec, les bras des personnages de Yuasa, ils s'élongent à l'infini, tout est élastique, tout est magnifique. Quand les gens boivent de l'alcool, ça fait gloum que ça, en faisant un énorme déformation du corps. C'est drôle sans être niais, c'est punchy, il y a une musique incroyable. incroyable. On passe un moment super. Ça a été diffusé au Carrefour de l'Animation il n'y a pas longtemps, au Forum des Images, au Hall, donc à Paris. Ça n'a pas encore de date de diffusion. C'est toujours un peu compliqué avec ce genre de films qui sont un petit peu pointus. Ça arrivera un jour, que ce soit en Blu-ray ou quoi. Mais je vous le recommande, c'est ma claque d'animation de l'année. Déjà que Lou au lit de sirène était bon, mais alors lui, il est ouf, quoi.
Patrick.
Alors moi je lis ce bouquin en ce moment, Les Maîtres du jeu vidéo. Alors le titre est vraiment pas bon du tout, parce que le titre
tout jeune, quand même, hein,
non ça date, hein, ouais. Il fallait que je le lise. Ça s'appelle Masters of Doom en VO de David Kushner. Alors c'est passionnant parce qu'en fait c'est l'histoire d'id Software, donc les créateurs de Wolfenstein 3D, de Doom, etc. Et c'est passionnant parce que ça rentre vraiment dans le détail de, bah, on parle du shareware, comment id Software a cartonné avec ce format de distribution novateur pour l'époque qui permettait aux justement au studio d'émerger. Et puis on voit le côté bicéphale du studio entre Carmack, froid, calculateur, qui est dans le code tout le temps, Romero qui est un fou furieux, et ça marche. Leur rencontre fait qu'il y a un truc qui se passe et que Doom va tout péter à l'époque.
C'est, c'est un livre de 2010 à l'époque où il y a commencé à y avoir de la littérature jeux vidéo.
En tout cas, c'est une photo qu'on sort toujours.
C'est vrai qu'elle n'est pas terrible. En tout cas, c'est vraiment passionnant de voir.
Moi, je voulais parler un peu d'autopromo quand même, parce qu'à Libération et avec France Inter, on a sorti Voyage au cœur de l'IA. C'est un hors-série consacré à l'intelligence artificielle. J'en parle parce que j'ai beaucoup trop travaillé dessus. Voilà.
C'est exutoire un peu.
Ça m'a bien pris la fin d'année 2017. Mais en tout cas, j'étais très content avec couverture exclusive de Enki Bilal, notamment. Mais l'intérieur est bien aussi, quand même. Merci à tous. On a fait un peu plus long, mais pas trop, je pense. Bonne année, joyeux Noël, bonne année à tous. Et on se retrouve évidemment en 2018 sur nos lives, sur Libération et sur les internets, bien sûr. Ciao.